Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode de Design Plus Express. Cette série dure tout l'été avec des nouveaux invités et 10 nouvelles questions. Pour ce nouvel épisode, je reçois David Marbach. David est Head of Design et je l'ai reçu dans Design Plus en septembre 2019 dans un épisode sur le Design Thinking. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'intégralité de son interview à condition d'être une ou un abonné premium. Pour choisir un forfait premium, c'est très simple. Je vous donne rendez-vous dans la description de cet épisode ou dans la description du podcast et vous y trouverez le lien vers ma page Supercast. Et maintenant, voici les réponses de David. Question numéro 1. Cite-moi trois mots qui définissent ton métier.
Alors, je dirais le premier, ça serait itération. Le process UX, on le schématise souvent par le double diamant, avec deux phases distinctes de discovery et delivery, pour simplifier. Mais en réalité, je crois que c'est une boucle infinie de phases de compréhension et de test. C'est réellement un process expérimental et continu. On conçoit, on teste, on affine, on reconfronte à la réalité, et ainsi de suite. Et plus généralement, itération, c'est aussi parce que finalement, la perfection n'existe jamais. Et notre travail, dans toutes ces dimensions, est fait de tâtonnements, d'approximations successives, que ce soit en termes d'expérience, en termes de qualité de service ou de process. Le deuxième terme, alors j'hésite entre symbiose et synergie, parce que travailler dans le produit, quelle que soit la fonction, peut-être encore plus pour un designer, c'est de réunir et mélanger des expertises variées. Produits, marketing, tech, service client, finance, sales, légal, etc. Et en réalité, la solution nous dépasse tous individuellement. Et donc, personne n'a le monopole de la solution. C'est pour ça qu'on parle de conjugaison, de synergie des expertises, de pluridisciplinarité. Et synergie aussi, car il y a beaucoup de problématiques en une souvent. Et le design n'est fait que de contraintes, d'objectifs, de problèmes qui se conjuguent, qui s'additionnent. Et on le sait, une bonne solution à un problème donné, un problème qui est multifacette, doit être aussi multifacette. Un mélange de plusieurs choses. Ça doit être à la fois désirable pour l'utilisateur, faisable techniquement, viable économiquement et durable maintenant. Et le troisième terme, je dirais, c'est la méthode. Moi, j'assume une certaine exigence en termes de méthodologie, d'approche des problèmes. Je pense qu'avoir de la structure et de la méthode, ça permet d'être efficace. J'entends souvent parler de créativité, d'inspiration, un peu par opposition à la méthode. Les gens souvent opposent process versus créativité. Et je crois que c'est une fausse contradiction. Dans la réalité, le problème que je constate souvent, c'est que les gens, les équipes déploient une énergie et une soi-disant créativité à produire des idées qui ne répondent à aucun besoin ou qui y répondent mal ou qui ne prennent pas en compte la perspective de l'utilisateur. Et je crois qu'un bon process, il n'y a pas un seul bon process, mais le bon process pour une problématique donnée permet justement de canaliser cette créativité. Il y a une citation que j'aime beaucoup dans le livre Discovery Discipline qui exprime bien cette idée. Je crois que c'est les berges d'une rivière l'empêchent de devenir marécage. Et je crois que ça fait beaucoup sens que, effectivement, de ce que je comprends de cette phrase, c'est que la créativité a besoin de structure et de méthode pour donner sa pleine mesure, surtout dans le design.
Question numéro 2. Pourquoi as-tu voulu devenir designer?
Alors, tout a commencé pour moi au collège. Je voulais devenir designer produit, concevoir des téléphones sans fil, des voitures futuristes, des baskets Nike, des lampes, tout et n'importe quoi. Je faisais beaucoup de dessins en imaginant des nouveaux produits. Donc c'était un peu l'âge d'or de Philippe Starck. Et à 13-14 ans, je pensais pas du tout à la fonction ou l'usage, juste à la forme. J'aimais les trucs qui avaient l'air cool. Et après le lycée, j'ai finalement opté pour des études littéraires et des langues. Je dessinais moins à l'époque, je faisais plus de musique. Et après avoir terminé ma maîtrise d'anglais en littérature américaine, en fait, j'avais le choix entre soit être prof, donc prof d'anglais, soit faire une thèse. Alors, j'adorais la recherche, la réflexion, le fait de beaucoup lire, d'analyser des œuvres, de manipuler des concepts. Mais je me suis aussi rendu compte que, d'une part, la créativité me manquait, le design me manquait, le dessin me manquait, et d'autre part, j'avais besoin d'être avec d'autres personnes. En fait, le travail de recherche à l'université, c'est un travail qui est très solitaire, qui est très monacal. Pour ces deux raisons, j'ai repris des études en design. Et entre-temps, les internets sont arrivés, donc c'était plus uniquement du design produit, je dirais, matériel. Et je me souviens, j'avais acheté un livre en 2006-2005 au Centre Pompidou qui s'appelait e-Project sur les plus beaux sites web de l'année. Il y avait pas mal de livres comme ça à l'époque, à la Fnac. Et j'étais assez fasciné. Encore une fois, c'était l'aspect visuel qui m'avait attiré au début. Et puis, pendant mes études en design, à l'école de design, j'ai découvert l'ergonomie assez rapidement. La psychologie cognitive, et c'est devenu une véritable passion qui continue aujourd'hui. Et finalement, je me suis beaucoup plus axé sur l'UX que sur l'UI ensuite.
Question numéro 3. Pourrais-tu décrire ton métier sur 24 heures et comment tu t'organises?
Alors, dans mon cas, j'ai pas mal de trajets. J'habite à Reims et je travaille à Paris. Donc avant de commencer ma journée de travail, c'est souvent 30-40 minutes de lecture d'articles dans le train, puis 15-20 minutes de podcast dans le métro, idem le soir. Donc en général, ma journée, elle est quasiment entourée de 2 heures de veille. Ensuite, la journée en elle-même, alors, en tant que responsable d'équipe, mes journées sont occupées par pas mal de réunions, je pense comme beaucoup de personnes. Alors, dans réunion, j'inclus tous les types de réunions, hein, des réunions d'équipe, des présentations, des design critiques, des points de coordination, des ateliers d'idéation, des rétros, donc vraiment tout type de réunions. Parfois, on fait même des réunions pour préparer d'autres réunions. Donc, en tout cas, voilà, l'essentiel d'une journée type, pour moi, c'est des réunions et des échanges via Slack. Alors, je ne suis pas anti-réunion du tout. Au contraire, je pense que dans bien des cas, un bon format de meeting peut être plus efficace que des échanges sans fin sur Slack. Mais une bonne réunion, ça demande aussi pas mal de travail d'anticipation. Alors aussi, dans ma journée type, il y a, moi, je dirais pas mal de one-to-one avec mes reports, avec mon manager, avec des stakeholders. Alors moi, ce que j'essaie de faire, c'est de les concentrer plutôt en début de semaine pour avoir au moins une journée sans réunion. C'est souvent le jeudi ou le vendredi. Et encore une fois, les one-to-one, ça implique la préparation en amont, de faire une synthèse ensuite avec des next steps. Donc, ma journée type, c'est aussi beaucoup de lecture, d'analyse, des documents de cadrage, je sais pas, des synthèses sur Notion, des benchmarks, des analyses, des études de marché, des synthèses sur une phase de recherche, des recommandations, donc sur du design, donc voilà, beaucoup d'analyses, comment dire, de lecture de documents. Souvent, il y a un ou deux recrutements en cours, donc ça veut dire revoir des job desks, revoir des CV, faire des entretiens, faire des réunions pour débriefer. Et dans une journée type, je dois avoir peut-être 2, 3 fois 30 minutes max pour avancer sur des sujets très très macro, sur la stratégie, sur la vision, sur des actions du type voilà, mettre à jour une grille de compétences, des guidelines, des rituels. Donc on n'a jamais assez de temps pour ça. C'est pour ça que j'essaye d'avoir au moins un jour de focus plein une fois par semaine. Pour un peu prendre de la hauteur sur quelques sujets clés et macro.
Question numéro 4. Quelle est ta plus grande réussite en tant que designer?
Alors, je dirais la refonte UI que j'ai menée chez Les Furets il y a quelques années. Je n'étais pas le seul, bien évidemment, responsable de ce travail. Alors déjà, je suis très fier du résultat purement UI. J'étais très, très heureux des effets positifs de ce que ce redesign a pu générer aussi à plusieurs niveaux. Déjà, je me suis vraiment battu pour faire prioriser ce sujet qui était loin d'être dans la shortlist des priorités à l'époque. Donc j'ai vraiment pris mon bâton de pèlerin pour essayer de rallier des stakeholders. Donc il y a eu beaucoup de politique et de travail d'influence en interne. Il a fallu notamment sortir une agence de communication qui était bien implémentée dans la boîte depuis des années et qui voulait prendre la main sur la refonte et la brand. Donc il y avait un premier succès à ce niveau-là. C'était aussi une réussite du point de vue des KPI, au niveau des KPI business. On a généré beaucoup de profits suite à ce redesign purement UI. Comment dire, réussite au niveau des KPI utilisateurs, parce qu'on a eu dès lors des feedbacks clients vraiment excellents sur l'expérience, sur le design. Quand on faisait des tests, on avait vraiment des feedbacks spontanés sur le design, donc c'était vraiment super appréciable sur le design et aussi sur l'image de marque. Et puis il y a aussi une très bonne collaboration entre les équipes produits marketing pour créer cet écosystème cohérent. Donc le fait que le design et les éléments de brand soient cohérents et appréciés, c'était vraiment une réussite parce que c'était un des objectifs qui n'était pas simple. Et ça a été surtout une réussite au niveau de l'évangélisation du process UX en interne dans une boîte qui initialement avait un ADN très tech, très, très back-end même. Et voilà, en fait, à travers ce projet, on a vraiment mis en place une collaboration très très forte entre produits, design et tech, notamment au niveau du product trio. Alors, chez nous, c'était PO, design, designer et dev, qui était vraiment hyper efficace et qui a perduré ensuite, puisque à la suite de ce redesign, en fait, le process UX, le trio, l'itération, etc., le fait de problématiser les choses, voilà, enfin, tous les éléments, tous les ingrédients du process UX ont été ensuite bien implémentés dans les futurs projets, dans les futurs squads. Les designers ont été intégrés dans les product teams. Leur expertise était vraiment comprise, reconnue. Et la relation produit tech design était vraiment très bonne avec beaucoup de solidarité, de bienveillance, d'implication et d'exigence aussi. Donc, une réussite surtout à ce niveau-là.
Connais-tu Notion ? Personnellement, c'est l'application que j'utilise toute la journée, tous les jours, pour gérer le podcast, mais aussi pour une partie de ma vie privée. C'est à la fois mon espace de travail personnel, mais aussi celui que je partage avec les futurs interviewés pour préparer chaque épisode. Donc Notion, tu peux l'utiliser pour tous tes projets professionnels et personnels, en mode solo ou avec ton équipe. Et depuis quelques mois, Notion a intégré une IA, une intelligence artificielle. Tu peux lui poser directement tes questions sur tes documents, tes tableaux, tes projets et l'IA te répond. Il suffit juste de demander. L'IA t'aide à rédiger tes contenus. C'est terminé le syndrome de la page blanche. Laisse l'IA de Notion rédiger un premier jet pour toi. Bref, tu as un vrai rédacteur à tes côtés. Enfin, l'IA va parcourir tous tes documents en quelques minutes pour en extraire les points clés, faire des résumés et bien plus encore grâce au remplissage automatique. Donc, plus besoin d'écrire une énième note de mise à jour sur l'avancement de tes projets. Et si tu te poses des questions sur tes données, Notion a déjà tout prévu. Les données restent privées et sécurisées. Le programme est conforme au RGPD et CCPA. Donc c'est un super atout pour avancer plus vite et mieux. Pour en savoir plus et essayer l'IA de Notion gratuitement, clique sur le lien qui se trouve dans la description. Question numéro 5. Quels sont les freins les plus courants que tu rencontres et comment les combattu?
Pour moi, le premier frein, c'est la résistance au changement. Je pense que c'est la force la plus puissante de l'univers. Dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, j'ai trouvé des fervents défenseurs du statu quo Alors bon, il n'y a pas de formule magique, en tout cas j'en ai pas pour éviter ça. Ça demande du temps pour faire évoluer les choses. Il faut bien sûr essayer de comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Il faut écouter, il faut expérimenter. Il faut aussi, je dirais, évaluer si un changement est possible. Parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne pas du tout. J'ai d'ailleurs quitté ma précédente boîte car ma vision et les changements que je voulais opérer et ne correspondaient pas du tout à la vision du DG, ça convergeait pas, donc voilà, j'ai préféré partir. Le deuxième frein, c'est ce que j'appellerais des guerres territoriales entre le marketing et les équipes UX sur qui est responsable de la voix du client, par exemple. Il y a toujours eu ces petites guéguerres. Des guerres territoriales aussi entre PM et l'UX sur les rôles et les responsabilités. Il y a eu souvent des tensions que j'ai pu observer à droite à gauche dans plusieurs entreprises, dans plusieurs équipes. Et ma stratégie sur ces questions, c'est de changer de dialectique. Parce que la question qui se pose souvent, c'est « Ok, qui fait quoi ?» Et on fait des tableaux de responsabilités, etc. Moi, je pense que la question, c'est plutôt « Comment on fait ensemble ?» Aujourd'hui, on est loin de l'époque du waterfall avec des cycles en V où chacun avait un périmètre très très défini, très cloisonné. Et je pense que la bonne stratégie, c'est d'accepter des overlaps, des chevauchements entre les disciplines, d'encourager la co-responsabilisation et la co-construction, vraiment le faire ensemble. Et après, bien sûr, tout dépend de la topologie des équipes, où sont situées les expertises. Parfois, il y a pas d'overlap parce que les expertises sont présentes dans une fonction, pas dans une autre. Des fois, un PM va avoir une forte sensibilité UX et un UX va avoir des fortes sensibilités produits. Donc, dans ces cas-là, il faut encourager l'overlap et le faire ensemble. Mais bon, en tout cas, je pense que le plus souvent et de plus en plus dans l'avenir, il y aura de la porosité entre les disciplines et je pense que c'est positif. Donc, évitons les guerres territoriales inutiles. Le troisième frein ou obstacle, c'est, moi je vais faire simple, je vais appeler ça des roadmaps très définis. C'est compliqué d'arriver dans une entreprise et d'essayer de mettre en place des pratiques UX basées sur l'expérimentation, l'itération, sur la notion de test d'hypothèse, quand il y a déjà une belle roadmap à 18 mois qui est quasiment verrouillée par la finance et le produit et la tech, et où il est question uniquement de livrer des features ou des produits. Dans ces entreprises, et je pense que c'est assez généralisé, c'est je dirais un peu le règne de la conviction et de l'illusion du contrôle. Et alors là, comme stratégie, je pense que la recherche utilisateur s'avère utile, car on le sait, hein, dès qu'on met un prototype dans les mains d'un utilisateur, on se rend compte souvent que l'idée n'est pas bonne, ou que l'exécution l'exécution n'est pas bonne. Donc parfois, ça aide à instiller le doute et à, je dirais, enclencher un état d'esprit plus tourné sur le doute, en fait, le test d'hypothèse, plutôt que le fait de livrer des features déjà définies. Maintenant, le plus efficace des tests utilisateurs n'empêche pas une roadmap bulldozer d'avancer. Et une technique que j'avais utilisée il y a 2 ans dans une autre boîte, c'était de lister sur les 12 derniers mois tous les projets qui avaient été menés et de lister sur tous ces projets ceux qui avaient fonctionné et ceux qui n'avaient pas fonctionné, qui n'avaient pas permis d'atteindre nos objectifs. Et j'avais listé en face de ça aussi le temps que ça avait pris. Pour dire à la fin, bon ben voilà, on a fait, 40 projets dans l'année, et on le voit, 70% des projets sont des fails. C'est-à-dire que dans 70% des cas, on n'a soit pas atteint nos objectifs, les objectifs qui avaient été fixés, soit des fois on a dégradé la situation avec ce projet-là, et en plus on a pris du temps pour le faire. Des fois c'était, je prenais comme mesure la première réunion, le premier kick-off, jusqu'à la fin de livraison de la dernière itération, pour dire, voilà, bah, en fait, ça nous a pris 5 mois. 5 mois pour perdre de l'argent, donc voilà. Quand est-ce qu'on commence à tester des hypothèses plus tôt dans le process, plutôt que, se committer à livrer quelque chose qui, en plus, souvent dépasse la timeline établie. Donc, je pense que mettre en face une entreprise, mettre une entreprise en face de ses échecs, ça peut être une bonne stratégie pour changer cette approche.
Question numéro 6. Qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu regardes pour apprendre et progresser ?
Alors, tout ce que je peux. Des livres. Je lis beaucoup de livres. Je dirais un livre pro par mois, grosso modo. Parce qu'en plus, quand je lis des livres, je prends des notes à côté, je souligne, donc ça me prend du temps. Beaucoup d'articles, globalement via Medium. Alors j'utilise encore The Old Reader, qui avait remplacé Google Reader il y a pas mal d'années. J'ai du mal à m'en défaire. Je trouve que c'est toujours, c'est hyper utile d'avoir des flux RSS où les contenus viennent à nous. Tout ce qui est aussi articles type produits, le blog de Tiga, il y en a vraiment énormément. Donc des articles, des podcasts, Design Plus bien sûr, il y en a d'autres, Parlons Design, Design Journeys, des podcasts en anglais, Design Leadership, et des podcasts produits, je pense à Product Tape par exemple, le podcast aussi de Mélissa Perry, j'ai oublié son nom. Donc pas mal de podcasts que j'écoute dans le métro et des vidéos aussi, donc des conférences. Donc j'ai un peu une liste de noms de personnes comme ça qui ont écrit des livres et qui ensuite font des conférences ou des entretiens des tables rondes. Donc je consomme beaucoup de vidéos et voilà, donc voilà tout ce que je peux pour apprendre et progresser et aussi solliciter les équipes pour que chacun puisse partager vraiment ses learnings, les techniques à tester, les approches. Je vais des fois tester je vais lire des détracteurs. Par exemple, à l'époque où j'étais archi fan du Double Diamant, je lisais aussi des détracteurs du Double Diamant pour avoir vraiment une image assez globale des forces et faiblesses de chaque process.
Question numéro 7. Dans tes interventions, comment tu repères le bullshit du vrai ?
Alors, je doute beaucoup, en règle générale. Donc, quand je ne comprends pas quelque chose, en fait, je me demande toujours si A, je suis trop lent à comprendre et que c'est ma faute, ou B, ce qui est dit manque de sens ou est creux. Il y a une phrase de Nietzsche qui dit que il y a beaucoup de gens qui troublent leurs os pour les faire paraître profondes. Parfois, je ne repère pas le bullshit tout de suite. Je me dis que ça paraît bullshit, mais si ça se trouve, c'est moi qui ai mal compris, donc je creuse quand j'ai un doute. En réalité, c'est surtout l'attitude que je repère assez vite. Et encore, je peux me tromper, mais l'attitude des personnes qui veulent se montrer importantes, qui coupent la parole, qui veulent pas la rendre dès qu'ils l'ont et qui se paraphrasent à l'infini. Les personnes qui aiment s'entendre parler, qui se répètent, c'est un indice peut-être de bullshit. À l'inverse, une personne qui écoute en général, qui observe en silence, qui dit jamais rien et qui un jour, dans une réunion, va prendre la parole, se faire violence et va dire trois mots, je vais avoir tendance à accorder beaucoup d'importance et de crédit à ces termes-là. Alors, c'est pas nécessairement une preuve de pertinence, mais c'est aussi un bon indice. Donc, voilà, pas de stratégie, mais des doutes et que j'essaye un peu de creuser, de poser des questions pour essayer de comprendre, pour m'assurer qu'il y a de la véracité, il y a du fond dans ce qui est dit.
Question numéro 8. Donne-moi un secret sur ton métier que personne ne sait.
Alors, je sais pas si c'est un secret, c'est plus une croyance. Je pense que lorsque toutes les fonctions d'une organisation auront maîtrisé les bonnes pratiques en termes de recherche utilisateur, de méthodologie centrée utilisateur et d'ergonomie, je pense que les designers n'existeront plus, surtout les UX designers. Il y aura toujours besoin de designers visuels. J'avais lu quelque part, un peu au début de ma carrière, que le design, la fonction de design, les designers existaient, les UX existaient parce que personne d'autre n'était là dans une entreprise pour défendre les utilisateurs et pour le faire sans introduire trop de biais. Parce qu'en fait, en réalité, tout le monde pense utilisateur. Tout le monde pense faire le mieux pour l'utilisateur. Les UX ont la méthode et l'expertise pour identifier les biais de confirmation, etc. Et pas juste demander aux gens ce qu'ils veulent. Donc il y a vraiment des techniques qui sont à disposition des UX, qui sont maintenant généralisées à d'autres fonctions, ce qui est positif. Mais je pense vraiment que quand cette expertise, cette discipline sera distribuée, je dirais, partout dans l'entreprise, quand tout le monde sera responsabilisé à améliorer l'expérience, à faire de la recherche avec le moins de biais possible, les designers UX risquent de ne plus exister. Mais le design expérience utilisateur survivra, bien sûr.
Question numéro 9. Penses-tu que les IA, les intelligences artificielles, pourraient révolutionner nos métiers et ou modifier certaines de nos pratiques?
Et aujourd'hui, les IA ont une capacité de, notamment de synthèse qui est vraiment phénoménale. Donc par exemple, pour une recherche utilisateur, on entre beaucoup de données un peu en vrac et ça ressort sous forme de tableaux structurés et hiérarchisés. C'est vraiment incroyable. Pour les études de marché, les IA donnent déjà des insights super, super pertinents. Et en fait, ça ne peut que s'améliorer. Donc moi, j'y crois énormément. Les programmes de génération d'images comme Midjourney ou d'autres secouent déjà, je pense, les plateformes de banque d'images. Après, il y a une question de droit de propriété qui reste à mener, mais moi j'imagine que les illustrateurs et les créateurs de logos peuvent déjà se sentir menacés. J'ai vu récemment qu'une pochette de livre a été supprimée parce qu'elle avait été générée par une IA, donc voilà, ça va poser des questions de type juridique, je pense. Moi, demain, ça me semble évident qu'on pourra balancer 2-3 croquis mal tracés à une IA et demander à l'IA de nous faire plusieurs versions de maquettes ou même de faire un design system en entier. Donc oui, je crois que ça va révolutionner nos métiers. Je pense pas que les métiers vont être remplacés, pas tout de suite en tout cas, mais que ça va être une compétence en plus, ça l'est déjà. Ça va servir, je dirais, d'accélérateur, de facilitateur, ça va libérer aussi du temps de production et laisser de la place pour de nouvelles pratiques. Et en fait, c'est ce qui se passe souvent avec les nouvelles vagues technologiques. Ça va donner lieu à d'autres innovations. Il y aura des substitutions, c'est sûr, mais il y aura aussi des gains en termes de productivité. Et donc, ça va donner aussi lieu à de nouveaux métiers. Par exemple, dans la robotique, on parle maintenant de nouveaux métiers comme les cobots, pour justement faire, manipuler les robots, donc il y aura sûrement la même chose au niveau des IA. Je ne suis pas inquiet et je suis plus enthousiasmé par ces nouvelles possibilités qu'offre l'IA. On est vraiment en train d'assister à une rupture anthropologique, mais je ne pense pas que ça va complètement changer les métiers. J'étais récemment chez un encadreur pour faire des passe-partout et... Avant, les encadreurs utilisaient des cutters pour le faire à la main. Et chez l'encadreur où j'étais, il a utilisé une machine qui était gigantesque pour faire ça. La personne entrait les mesures et la machine coupait automatiquement. Donc voilà, c'est un outil qui leur est extrêmement utile, mais qui ne remplace pas le métier et qui permet justement, dans le cadre de l'encadreur, à se consacrer à des tâches peut-être à plus forte valeur ajoutée. Donc voilà, je suis encore une fois plus enthousiasmé que craintif par rapport à l'IA.
Question numéro 10. Pour toi aujourd'hui, en tant que designer, quel est ton plus grand défi?
Alors mon plus grand défi, je pense que depuis plusieurs années, c'est d'impliquer les designers plus tôt dans le process et de manière vraiment récurrente. Alors ça se passe de mieux en mieux, de plus en plus souvent, mais il y a encore des cas où le designer se trouve dans une position d'exécutant d'une vision d'un PM ou de la direction. Alors je pense qu'il y a deux causes à ça. D'abord, les phases amont d'un projet, on va dire, ou d'une initiative sont souvent liées à des enjeux ou des problématiques business, financières ou métiers. Et les designers, en général, de par leur formation ou de leur sensibilité, sont moins à l'aise avec ces sujets. C'est bien sûr une généralité, hein, mais de mon expérience personnelle, j'ai souvent constaté que les designers qui voulaient être impliqués tôt dans les projets étaient en réalité les mêmes qui finalement se désintéressaient un petit peu de ces sujets-là. Donc je pense que c'est en partie la faute des designers, de certains designers, qui parfois, je dirais, se complaisent dans une fonction de concepteur pur, en s'intéressant à la micro-UX, mais pas assez à la macro-UX. C'est-à-dire le produit dans toute sa totalité et toute sa complexité. Et la deuxième cause, je dirais, c'est aussi la propension de certains PM à aussi s'approprier ces sujets-là. C'est aussi, lié à la formation que beaucoup de PM ont eue, qui est forcément plus liée au business. J'ai toujours vu des PM, encore une fois, pas systématiquement, mais souvent, des PM ou des chefs de projet qui mettaient un peu les designers à l'écart de ces réflexions qui sont très structurantes, avec une logique du type un peu toi, tu es designer, tu fais le design. Nous, on parle business. Et j'ai eu des expériences dans différents types d'organisations, dans du e-commerce, dans l'assurance, dans du SaaS, en agence aussi. Et je crois que plus le sujet est complexe, moins les designers font l'effort de comprendre le produit en profondeur. Et ma vision des choses, c'est que je pense que pour qu'un designer soit réellement pertinent dans son travail, dans sa recommandation, dans son design, il doit prendre en compte toutes les facettes d'un problème. C'est-à-dire se frotter à des problématiques qui, de prime abord, semblent éloignées du design, mais qui sont vraiment des problématiques design, des problématiques financières, légales, techniques, marketing. Et s'il ne prend pas ça en compte dans son design, en fait, il va logiquement avoir une vision qui va être beaucoup plus limitée qu'un PM qui lui ou elle aura fait l'effort de prendre en compte tous les aspects d'un produit et du design au sens très large et d'embrasser toute la complexité d'un sujet. Et donc le designer, s'il ne fait pas cet effort là il aura toutes les chances de tirer à côté quelque part, il sera pas pertinent, et du coup en conséquence de ça, la confiance que les PM vont lui accorder va se réduire. Et en fait, ça va être un cercle vicieux. Donc moi, j'encourage vraiment les designers avec lesquels je travaille à dépasser un peu leur rôle de designer et d'aller plus en amont et se frotter à des problématiques business, métier, technique, légal, etc. pour être plus pertinent.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus Express 2023. Si cet épisode vous a plu, alors partagez-le autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter maintenant le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme. Enfin, pour ne pas rater les prochains épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode. À bientôt sur Design Plus. Salut !